La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local,
c'est un mélange, la collective.
C'est des interviews,
de l'actualité,
des chroniques,
des reportages,
de la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix,
c'est nos voix.
C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Sans Ferriol.
Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La Collective sur Radio Saint-Ferréol. Si je vous dis « Sans cabaner avec Giono », ça vous évoque quoi ? Une cabane en pleine nature ? Une forêt de montagne ? Un livre sorti de la poche pour y retrouver Giono, dont vous avez déjà lu peut-être « Colline »,« Le chant du monde »,« L'homme qui plantait des arbres » ? Si je vous dis encore « Prélude de Pan ». Peut-être entendrez-vous déjà quelques notes musicales. Un prélude qui a commencé dans les temps mythologiques de Pan, homme-bouc ou grand tout de la nature sauvage, et recommence à chaque fois que la nature réclame le secours des êtres encore en lien avec elle. Peut-être reconnaîtrez-vous le titre d'une nouvelle de Jean Giono. Ou bien cela ne vous évoque rien du tout. Et dans ce cas, vous pourriez écouter avec des oreilles toutes neuves, vivre le prélude de Pan de Jean Giono, mis en spectacle par la compagnie Scène Nationale 7. Et ce, dès la semaine prochaine, puisqu'ils joueront le 22 mai, du 22 mai au 6 juin, lors d'une itinérance à pied entre la Drôme et les cabanes du Vercors. Notons par exemple le 24 mai à la gare des Ramières à Alex et le 25 à la rivière Arte à Gigor et Lozeron. Avec nous donc dans le studio aujourd'hui, Baptiste Rela, créateur de la compagnie Scène Nationale 7 et directeur artistique et comédien. Bonjour Baptiste.
Bonjour, bonjour.
Et Samy De Coster, musicien dont vous entendrez peut-être la guitare en direct au cours de l'émission. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous laisse la parole. Pouvez-vous vous présenter un petit peu l'un et l'autre, votre rencontre, et puis peut-être ensuite la compagnie ?
Oui, bah, je commence alors. Donc, moi, c'est Baptiste. Je suis installé dans la Drôme depuis une grosse dizaine d'années. La compagnie aussi, elle est née au moment où je suis arrivé dans ce département. Et mon amour pour Giono aussi est arrivé au moment où je suis arrivé dans ce département. Donc tout est un peu concomitant. Et depuis, la compagnie voilà, essaye d'élargir un petit peu son territoire et son rayon d'action. Et elle a monté plusieurs textes, dont celui-ci, Prélude de Pan.
Et vous êtes combien dans cette compagnie ?
On n'est pas nombreux parce que je suis tout seul.
D'accord. Oh bah là, en l'occurrence, pour le spectacle, vous êtes au moins deux. Et Samy ?
Alors moi, je suis musicien, auteur-compositeur, donc j'écris des chansons la plupart du temps pour des disques et des concerts. C'est la première fois que j'ai une expérience sur un plateau de théâtre, on va dire. Ma rencontre avec Baptiste date maintenant il y a une bonne dizaine d'années, puisque ma compagne Marion était scénographe et travaillait sur un projet dans lequel Baptiste jouait en tant que comédien. Et on s'est rencontrés comme ça et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait un goût commun pour l'évasion, pour la nature. Et je sais que déjà à l'époque, on avait parlé d'un projet autour de Palais de Glace, qui est une œuvre de Vessos.
Absolument, ouais.
Et c'est marrant, j'y repensais tout à l'heure justement, c'était un peu les débuts. Et j'étais assez sensible, moi, à l'approche de Baptiste qui commençait déjà à l'époque à faire des spectacles itinérants. Et moi-même, en ayant aussi avec mon projet Facteur Chevaux, qui est un projet de folk, dans lequel on joue dans des lieux assez atypiques, quoi, des chapelles, des grottes. On avait fait des tournées de refuges de montagne. Je me sentais assez proche, on se sentait assez proche dans nos philosophies pour mener à bien nos projets artistiques.
Oui,
donc une amitié à la fois artistique et de tempérament.
Exactement.
Oui,
c'est ça. Et puis, la première tournée de Prélude de Pan qu'on a fait il y a 2 ans a vraiment exagéré cette amitié, au sens noble, bien sûr. Et ça nous a permis de partager vraiment plein de choses. Voilà.
Oui, donc l'idée du spectacle, elle est venue vraiment de là, de cet amour de Giono, de ce partage sur la marche.
Et d'un spectacle itinérant surtout, qui était l'idée justement de, de ce minimalisme et d'aller à la rencontre du public dans des lieux reculés, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche qu'on a tous les deux, d'aller amener justement ça, et à travers la marche, etc. Le spectacle lui-même prend, en fait, aussi.
Oui, c'est ça. Moi, je me souviens très bien quand je t'ai appelé, en fait, j'avais une espèce de, d'illumination parce que je traversais le Ventoux à ce moment-là en voiture. Je devais y faire une date ou y passer, je ne sais plus pour quelle raison. Et j'avais déjà monté des Giono et je me souviens que Prélude de Pan était un peu dans mes bagages, mais que j'osais pas encore le mettre en scène. Je trouvais ce texte un peu effrayant, un peu dense, un peu fou.
Eh bien, justement, avant de le présenter, de présenter cette nouvelle de Giono, je propose d'abord de planter une sorte de décor radiophonique, comme ça on plonge un petit peu dans cette ambiance musicale, et puis on rentrera après dans le récit dont vous allez nous en raconter un petit peu plus. Donc à la guitare, Samy.
Entre les cimes souffle le vent, il vient du fond de l'abîme porter ce nouveau chant, porter ce nouveau chant.
Prélude de Pan. Et c'est, là, c'est vrai que quand j'entends cette intro, j'ai tout de suite envie de commencer le début du texte, parce que c'est comme ça que le spectacle commence. Ça et me frustre.
On va l'entendre alors. Est-ce que...
Oui, ou j'en dis un mot juste avant, mais Prélude de Pan, c'est l'histoire de, d'un village, qui est un village en fête. C'est une fête votive. Et donc, à l'occasion de cette fête votive, il y a toute cette faune humaine qui fait la fête au village, les bûcherons, les bergers, les villageois... Et on boit beaucoup, voilà, ça dure quelques jours, et on est dans un certain état. Et au milieu de cette fête arrive un homme, par le chemin de la forêt, comme dit Giono, qui va s'installer dans le bar. On ne sait pas trop pourquoi il est là d'ailleurs, mais la météo se déplace avec lui, puisqu'il y a des éléments météo un peu étranges, qui sont des signes en fait, voilà, avec une météo très noire, sauf sur le village où il fait un rond de ciel bleu. Et on comprend qu'en fait, c'est pour désigner le village, le désigner au mal. Et donc, cet homme se cache dans le bar. Et puis, bon, je ne vais pas tout raconter, mais...
Peut-être on peut passer au texte et puis...
Je peux dire le début, ouais.
Voilà, et tu nous en racontes un petit peu plus après.
Ceci arriva le 4 de septembre, l'an de ces gros orages. Cet an où il y eut du malheur pour tous sur notre terre. Si vous vous souvenez, ça avait commencé par une sorte d'éboulement du côté de Toussière, avec plus de 50 sapins culbutés-cul dessus tête. La ravine charriait de longs cadavres d'arbres, et ça faisait un bruit. C'était pitié de voir éclater ces troncs de bon bois contre les roches, et tout ça s'en aller sur l'eau en charpie comme de la viande de malade. Puis, il y eut cet évasement de la source de Front-Froid, vous vous souvenez? Cette haute prairie soudain toute molle, puis cette bouche qui s'ouvrit dans les herbes, et on entendait au fond balloter l'eau noire, puis ce vomissement qui lui prit à la montagne et le vallon qui braillait sous les lourds paquets d'eau froide. Ces deux choses-là, ça avait fait parler. On était dans les transes. Plus d'un se levait au milieu de la nuit, allait pieds nus à la fenêtre pour écouter, au fond de l'ombre, la montagne qui gémissait comme en mal d'enfant. On eut cependant un peu de paix, mais les jours n'étaient pas dans leur santé ordinaire. À la lisière de l'échaud, une brume verte flottait. Il y en avait de cette brume accrochée à tous les angles de la montagne, comme si le vent était lourd d'herbes de mer. Du côté de Plampre, ça sentait la gentiane écrasée. Un jour, il vint une fillette du garde qui apportait un beau champignon, plus large qu'un chapeau et blême, et tacheté de noir comme une tête d'homme mort. Tout ça, ça aurait dû réveiller notre méfiance. Et à vrai dire, de tout ça, on se méfiait, mais la vie est la vie, allez donc en arrêter l'eau. Et puis on s'habitue à tout, même à la peur. Voilà, ça commence comme ça. C'est l'intro, donc cette météo dont je parlais, un peu inquiétante. Donc on n'est pas tout à fait à la joie, en fait, dans ce village. Il y a quelque chose qui arrive. Et puis,
on sent qu'il y a une force aussi qui arrive, hein, cet homme et les éléments en même temps.
Oui, c'est ça. De toute façon, c'est bon, comme dans l'ensemble de l'écriture de Giono, il y a quelque chose d'assez cosmique. Il y a un gros lien à la nature et l'homme est lié au climat, en fait, puisque la nature, c'est aussi le climat, évidemment. Enfin, c'est, voilà. Et donc, cet homme qui est Pan, c'est la figure de Pan, va descendre par le chemin de la forêt et puis il est un peu tous les animaux réunis. Il est aussi l'homme et les animaux réunis, fusionnés quelque part. Et puis, ce climat, il annonce une vengeance, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a une réponse à la violence exercée des hommes contre la nature, contre les animaux, contre les arbres, parce qu'on a aussi un club du bûcheron qui coupe beaucoup d'arbres et puis qui, à un moment, et puis c'est le sujet de la nouvelle, se met à torturer une tourterelle un peu gratuitement, juste parce qu'ils sont ivres. Mais cette violence est tellement insupportable que cet homme va effectivement lancer cette malédiction par sa parole, par la musique. Là, je rebondis sur le fait que Samy et moi, on s'est trouvés aussi dans ce travail-là, parce que j'avais vraiment besoin de musique sur ce spectacle-là. Mmh. Et ça pouvait être que Samy. Même si dans le sujet de la pièce, enfin, c'est pas une pièce de cette nouvelle, c'était un accordéon, un joueur d'accordéon, parce que ça ressemble plus aux fêtes de village, mais ça pouvait tout à fait être un guitariste qui gratte sa guitare et qui, à sa manière, raconte aussi l'histoire. Nous, on se dit qu'en fait, on est deux personnages qui l'ont vécu ou qui en ont entendu suffisamment parler, parce que c'est un peu le folklore local, pour pouvoir la raconter, même dans les détails.
Mmh. D'ailleurs, le titre s'appelle Prélude, donc en référence à la musique. Mmh. Voilà, on commence par l'accordéon, la fête de village. Et est-ce qu'on vous entend sur un deuxième extrait ?
Oui, alors juste pour commenter un peu ce que vient de dire Baptiste, justement, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, notamment la mise en scène dont Baptiste a eu l'idée, se basait quand même sur un minimalisme en fait, qui se devait être, puisque nous sommes, on marche juste avec nos sacs à dos et moi avec ma guitare. Et le texte étant déjà très musical en lui-même, je sais que cette transe, effectivement, elle était déjà implicite dans le texte de Giono. Je pense que je me suis placé un petit peu comme un scénographe musical, quoi. Il fallait, avec le peu de choses, c'est-à-dire la guitare et ma voix, essayer de créer ces paysages derrière, enfin en tout cas d'illustrer ces paysages sans non plus être trop, textuel ou être trop en... L'idée, c'est d'être en rebond par rapport au texte. Et en plus, dans cette écriture-là, il y a aussi un brin de cynisme, d'humour, quoi, quelquefois. Mm-hmm. Donc, il faut réussir des fois de contrebalancer ça. Voilà.
Oui, et puis tu traverses aussi la musique en tant que personnage. Il y a à la fois les paysages.
Exactement, oui.
Comme c'est Giono, où effectivement, il y a beaucoup de décors. Il y a cette installation du paysage, du décor. Et donc on est quelquefois dans la description, la musique aussi a cette vertu-là. Et puis elle a aussi la vertu de l'action, quoi. Comme le texte où à un moment ça s'enclenche. Et en fait la musique c'est la malédiction et en fait c'est la transe. Et ça aussi c'est un lien avec Pan, puisque Pan... alors c'est un spectateur qui m'a appris ça il y a quelques années. C'est à l'origine du mot panique, en fait.
Oui.
Et donc Pan, bon, on sait que c'est lié au bacchanal, à cette espèce de truc un peu orgiaque, aux fêtes romaines, avec beaucoup d'alcool, mais... Et puis qu'on sait aussi que c'est un homme-dieu un peu lié à la nature et aux dryades et tout ça. Mais Pan, ouais, c'est la panique. Et en fait, à une certaine époque, la musique était considérée un peu comme un éclatement des mœurs, en fait. Voilà, quelque chose d'assez mal vu. Et le fait de se permettre cette musique, donc ce chaos, et de la rentrer, de casser le calme, en fait, de casser l'ordre, ce personnage vient faire ça. Et la musique de Samy, elle est vraiment venue faire ça. Effectivement, après, ben, c'est une accélération et on finit en transe, en fait. Parce que le but, c'est vraiment aussi que la musique, elle devienne de la danse. Parce que la musique, ça fait danser, ça fait chanter, mais ça fait danser.
Oui, et puis on sent ce côté très vivant, c'est le chaos, mais d'où émerge une force de vie et de la nature qui est extrêmement joyeuse, en tout cas englobante et cosmique. C'est, faut vraiment pas, pour avoir vu le spectacle, il ne faut pas donner cette image que du chaos, parce que c'est extrêmement vivant tout ce qu'on
c'est
reçoit.
Un chaos joyeux, c'est un chaos
oui,
très joyeux.
On est quand même dans une fête de village, je nous replace, hein, et certes, il y a cet événement un peu qui va déclencher tout, d'une torture de cette tourterelle. Et là, ça provoque quelque chose. Hein. Donc, je vous laisse la parole pour un deuxième extrait.
Ouais. Oui, je pensais prendre le moment où l'homme arrive, en fait. Ça peut être intéressant.
Ah, je pense aux bûcherons.
Eh ben, ah, les bûcherons directement.
Peut-être parce qu'on n'aura plus beaucoup de place après.
Ouais, ok. Non. Ça me va.
Si ça leur va.
Ok. Enfin, pour moi, levé sur ces 4 heures de tantôt, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Aller chez Antoine, ou chez le centre, bien entendu, mais c'est la même chose. Comme ça, je suis arrivé que c'était déjà commencé. En approchant, je me dis, on se dispute. On entendait gueuler le Boniface. J'entrais. Ils étaient tous tournés vers le fond de la pièce, vers une chose que l'ombre délivra un peu de temps après, et qui était l'homme. Il émergea de l'ombre comme d'une eau. Je ne sais pas si ce fut l'effet du jour qui tournait autour du village et venait un peu d'aplomb, ou si la force de cet homme rayonnait de lui en délayant l'ombre, le fait est que je le vis tout à coup. Il était debout, très triste, accablé par une grande pensée qui teignait ses yeux en noir. Sur son épaule s'était posée une colombe des bois. Et c'est à ces deux-là, à lui et à la colombe, que le Boniface tout perdu de vin en avait. Il paraît que ça avait débuté drôlement. D'abord, il faut dire, toute cette équipe de gros gars, les bûcherons de la taille 72, là-haut, près du Garnesier, arrivaient tout droit des hauts bois après plus de 100 jours de campement solitaire. Ils venaient de vivre plus de 100 jours, je vous dis, avec comme compagnon le ciel et les pierres. La forêt, ce n'était pas leur compagne, ils l'assassinaient. Ce qu'il faut faire pour vivre, quand même. Cette amitié qu'ils étaient forcés d'avoir pour le grand ciel tout en acier, pour l'air dur, pour cette terre froide comme de la chair de mort, ça leur mettait au cœur le désir d'embrasser les arbres comme des hommes, et voilà qu'ils étaient là, au contraire, pour les tuer. Bon, je m'explique mal, que voulez-vous? C'est un peu, sauf votre respect, comme si vous qui aimez Berthe, je le sais, et elle le mérite, on vous obligeait pour vivre à la tuer elle et à faire des boudins avec son sang. Non, excusez-moi, c'est pour dire, mais vous comprenez maintenant. Alors, pour en revenir à ces gars, ces choses contenues de leur désir et de leur amour, ça se changeait en méchanceté contre les gens et les bêtes. Ils étaient là, avec leur barbe comme de la mousse, avec leurs gestes habitués à l'espace de l'air, et qui étaient plus larges que les nôtres. Le Boniface avait apporté dans la poche de sa veste de velours cette petite colombe des bois. Il s'était mis dans la tête là-haut de l'apprivoiser. Et comme chaque fois qu'il la lâchait, elle jaillissait dans la cabane, renversait la chandelle et volait comme une folle contre le mouchoir de la fenêtre, il lui avait cassé une épaule. Oui. Vous voyez ça? Bon, voilà, puis on va s'arrêter par là. Hein.
Ça donne envie d'en savoir plus. Alors, j'aimerais qu'on replace un tout petit peu la nouvelle dans l'œuvre de Giono avant de voir quelles interprétations, lui, vous pouvez lui en donner. Prélude de Pan, c'est une nouvelle qui a été publiée en 1932 dans le recueil Solitude de la pitié. Elle a une place particulière dans l'œuvre de Giono parce que elle arrive après un cycle sur Pan, justement, avec Colline, un de Beaumurge. Je ne sais plus le troisième.
De Beaumugne, ouais.
De Beaumugne.
Et Regain.
Voilà. Mm. Et donc, il y a déjà cette, en transparence, cette énergie de Pan qui peut à la fois prendre les traits parfois d'un personnage ou quelque chose de beaucoup plus, d'une force beaucoup plus cosmique, on va dire, de cet ordre de la nature. Quelles interprétations vous lui donnez à cette nouvelle et pourquoi elle vous a touché, vous ? Qu'est-ce qui, dans ce texte, vous a traversé de l'intérieur pour que vous ayez envie de le mettre en spectacle et puis ensuite de vous l'approprier ?
Eh ben, c'est vrai que alors la nature et la place de l'homme dans la nature, c'est une thématique qui traverse toute l'œuvre de Giono. C'est une espèce de fil rouge, plus ou moins exploité selon les romans. Et là, il y a vraiment dans cette nouvelle quelque chose de très condensé par rapport à ça. Ça parle vraiment quasiment que de ça. Enfin, c'est très... Et il y a quelque chose de très visionnaire chez Giono dans cette vision de la place que l'homme a avec le vivant non humain, et l'exploitation du reste du vivant, que ce soit les arbres, les animaux, à une époque où on n'était pas du tout écolo, quoi. C'est quand même un texte qui a été écrit maintenant, il y a bientôt 100 ans, donc c'est assez fou. En tout cas, aujourd'hui, je pense, l'écho que ça peut avoir auprès de nous, et puis cette urgence qu'on a, un peu cette urgence climatique aussi, qui nous presse et nous oppresse. Et Giono était déjà là-dedans, il y a quelque chose de ça. Et j'aime bien la façon dont il parle des animaux, la façon dont il parle de cette nature, et même à travers toute sa poésie, en fait, qui est une poésie très visuelle et très, une écriture de la sensation, en fait. On a toujours tous les sens qui sont développés dans l'ensemble de son écriture. Il n'y a pas que, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les descriptions, il n'y a pas que la vue, il y a vraiment l'ouïe, il y a le toucher, il y a le sentir, il y a les choses qu'on ressent dans son ventre. Et puis il y a ce sixième sens ou septième sens, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est un peu d'ordre cosmique, cette préscience en fait, où on sent les choses arriver, on sent les choses se lier. Voilà. Et donc, en fait, ça, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est que finalement ça parle de la nature qui est en nous, c'est parce qu'on s'en est beaucoup exclu en les opposant, le vivant non humain et le vivant humain, mais on est des mammifères et on fait partie de ça en fait. Et donc trouver des chemins de réconciliation avec le vivant, que ce soit les animaux ou la forêt, c'est aussi trouver un chemin de réconciliation avec soi-même en fait. Et c'est comment on se réhabilite nous-mêmes dans notre nature profonde, voilà. Et c'est un peu le sujet. De notre itinérance aussi, dont on va parler tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'être être sur les chemins, être parmi la nature, voilà, sur les chemins de la forêt, dans la montagne, c'est une façon aussi, nous, de nous remettre dans cet environnement et de retrouver ces sensations, ce goût, et d'être, de sortir aussi de tous ces environnements un peu artificialisés.
Vous séparez, oui. Giono parlait de la grande barrière.
La grande barrière, c'est un de mes textes préférés.
On y reviendra, pardon, Samy. Non,
Je dirais qu'également, ce qui est très riche, pour compléter aussi un peu ce que dit Baptiste, c'est que il y a aussi le fait d'être porteur d'un message, je trouve, ce qui est assez riche. Et à l'issue de chaque spectacle, on a toujours un moment de partage et de discussion avec le public. Et je trouve ça vraiment très enthousiasmant ce qui se passe lors de ces échanges. Du coup, je trouve que ça donne vraiment une autre dimension aussi au spectacle lui-même. Enfin, pour le coup, si je parle de mon expérience en tant qu'auteur-compositeur qui chante la plupart du temps ses propres chansons, enfin, c'est le cas là aussi, j'ai fait une création pour le spectacle. Mais en l'occurrence, je suis toujours à me demander l'utilité de ça, enfin, quand c'est mon propre message. En fait, je n'écris pas des chansons en me disant il y a un message quelconque dedans, d'autant que j'ai une approche assez spontanée et un lien avec la nature assez d'ordre assez contemplative, on va dire. Mais là, en l'occurrence, la création, justement, qui vient se greffer à ce texte qui est fabuleux par son message, j'ai l'impression de me sentir aussi utile, en quelque sorte. Voilà.
Oui, en tout cas, vous vous posez la question, qu'est-ce que ça sert ? Qu'est-ce que je sers ?
Exactement, et voilà. Et là, je trouve qu'il y a, en tout cas, il y a une finalité à chaque fois qu'on prend ce temps de parole ensemble, où je me dis, mais c'est chouette, parce que je me sens, du coup, je nous sens porteurs d'un message. Et qui du coup aussi gonfle au fur et à mesure de l'itinérance, quoi. Et je trouve ça assez chouette, en tout cas, d'avoir quelque chose de très cohérent comme ça, en tout cas dans l'initiative de l'itinérance, et d'être porteur de ce message de Giono, qui effectivement, comme le disait Baptiste, interroge sur notre rapport un peu de prédation avec ce qu'on appelle la nature.
Oui, et si je peux me permettre, vous lui donnez pas simplement une portée intellectuelle ou un message qui serait un propos. Là, vous le faites vivre et on le ressent, en tout cas, je crois, avec vous. Avant de voir comment cette sensibilité à l'œuvre de Giono dans la nature a contribué à faire... À participer à votre choix hein, pour faire la création du spectacle, etc. J'aimerais bien qu'on entende encore un extrait et puis après on parlera de la mise en scène. Mmh. Vous en avez un en tête ?
Oui. J'en ai plein en tête, malheureusement. C'est choisir qui est difficile, comme toujours.
Il faut laisser un peu de surprise pour que les personnes puissent
découvrir. Est-ce qu'on se lance sur la fin ou c'est un peu too much ?
Je dirais que si c'est le dernier...
La leçon, alors, peut-être.
Oh, on aura...
Ok.
On fait la leçon. C'est un tout petit moment, en fait, où la colombe a rejoint l'homme qui était au fond du café dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on l'entend là-bas qui râle sur son épaule. Elle râle de joie. Et le Boniface, qui est le bûcheron qu'on a déjà présenté, dit... Qui c'est celui-là ? Le café était maintenant plein de monde, mais... Personne ne savait qui c'était, celui-là. C'est à ce moment-là que j'entrais. C'est à ce moment-là aussi qu'un de ces nuages de tout à l'heure, bien blanc, tout massif comme un galet, passa au-dessus du village réfléchissant le soleil. Un jet de lumière éclata sur les vitres de la fenêtre. Le fond du café s'éclaira. On vit l'homme. « Fiche-nous la paix, toi, garçon, et rends-moi ma bête, » dit Boniface en tendant sa main. L'homme avait la colombe sur son épaule. Il se tourna vers elle et lui parla dans le langage des oiseaux. Il soupira. La large main de Boniface était toujours tendue de son côté. « Allons. »« Je la garde, » dit l'homme. « Ça !» eut seulement le temps de dire Boniface, tant il était comme écrasé par le semblant de l'homme. « Ça, alors !» Et il se dressa en faisant craquer la chaise. Il était dans notre salle à boire, debout comme un tronc de chêne. Et il resta comme ça, parce que l'autre continuait de sa petite voix tranquille. Cette voix désentendue, on ne pouvait plus bouger ni bras ni jambes. On se disait « mais j'ai déjà entendu ça ». Et on avait la tête pleine d'arbres et d'oiseaux, et de pluie, et de vent, et du tressautement de la terre. « Je la garde, » disait l'homme. « Elle est à moi. De quel droit, toi, tu l'as prise et tu l'as tordue ? De quel droit, toi, le fort, le solide, tu as écrasé la bête grise ? Dis-moi, ça a du sang, ça, comme toi ? Ça a le sang de la même couleur et ça a le droit au soleil et au vent, comme toi ? Tu n'as pas plus de droit que la bête. On t'a donné la même chose à elle et à toi. » T'en prends assez avec ton nez. T'en prends assez avec tes yeux. T'as dû en écraser des choses pour être si gros que ça, au milieu de la vie. T'as pas compris que, jusqu'à présent, c'était miracle que tu aies pu tuer et meurtrir et puis vivre, toi, quand même, avec la bouche pleine de sang, avec ce ventre plein de sang. T'as pas compris que c'était miracle que tu aies pu digérer tout ce sang et cette douleur que tu as bu. Pourquoi ? On était tous comme des bûches mortes alignées au bord du chemin. Il est fou celui-là, dit Boniface. Etc.
On voudrait vous entendre encore.
On pourrait faire toute la nouvelle comme ça, mais...
Et il faut aller le voir aussi en spectacle parce qu'il y a quand même... toute une mise en scène, toute une expérience en tant que spectateur qui est assez exceptionnelle aussi. Il faut vous voir sur scène, il faut te voir danser, Baptiste, il faut te voir jouer, t'entendre, mais ressentir aussi les vibrations. Je me souviens, quand je vous ai vu, on entendait les pas sur l'estrade, on entendait tout ça, le vent, parce que vous jouiez dehors. Et justement, dans cette dernière partie de l'émission... J'aimerais vous interroger sur la façon dont vous avez créé le spectacle pour faire entendre ces valeurs dont on a parlé. Quel choix vous avez fait de mise en scène, de création sonore, les espaces aussi dans lesquels vous allez décider de jouer, et puis la marche aussi entre les différentes dates. Mmh. Donc sur ça, j'aimerais qu'on termine vraiment en entendant vos choix sur ce spectacle.
Oui, alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée en fait de l'itinérance était venue de Baptiste, qui l'avait déjà, déjà faite avec Faust au village, notamment une autre nouvelle de Giono. Mmh. Et moi, par ailleurs, j'avais fait aussi des tournées en refuge, comme je l'ai dit. Et du coup, l'idée de la mise en scène devait d'être minimale. Et on profite à chaque fois d'un décor qu'on constitue à chaque fois sur place. Donc en fait, on a acquis certaines facultés d'adaptation à chaque fois. Moi, je joue sur des bassines en plastique, sur des plats, etc., qu'on trouve le jour même. Donc c'est un peu absurde, des fois, quand on arrive sur les lieux, on se retrouve à essayer différentes bassines pour voir celle qui sonne le mieux. mais pour le coup, c'était quand même ce fil directeur d'avoir quelque chose qui puisse être transportable et minimal. Voilà, c'est là-dessus que s'est appuyé Baptiste, en tout cas. Et puis, moi, j'essaie de puiser dans ma guitare et ma tessiture vocale, à la fois dans le grave et dans l'aigu, par chance, pour créer ces espaces de paysage.
Oui, on essaye d'être le plus, toi en acoustique, enfin le plus naturel possible, finalement. L'idée, c'est un peu de faire comme si on y était, en fait, dans cette salle des fêtes, dans cette salle votive, avec... les éléments d'une commune, comme il y en a partout, qui constituent en fait déjà ce genre de fête. Donc on n'a pas beaucoup de choses à faire en fait. Il faut trois tables, trois bancs, on tourne autour de ça, on met une guirlande au-dessus et on se croit déjà dans la fête. Voilà. En fait, c'est l'imaginaire aussi qui vient travailler. On a offert en fait dans cette mise en scène beaucoup d'espace, beaucoup de temps, parce qu'il y a une grosse réflexion sur le temps qui passe sur cette nouvelle. Ça se passe en une journée et une nuit. D'ailleurs, elle est racontée par différents personnages. C'est comme s'ils prenaient le relais les uns les autres pour dire « Là, moi, je l'ai vu, donc je peux en parler. Bon, là, j'y étais pas, alors je peux plus en parler. Vas-y, toi, raconte. » Et donc, on ne sait pas finalement qui raconte cette histoire. C'est pour ça qu'elle est un peu collective. Mmh. Et il nous fallait beaucoup d'air, en fait, là-dedans. Et puis, il nous faut un espace assez grand pour pouvoir danser et se déployer, effectivement. Et après, comme j'en parlais, c'est le chaos au sens désordre, mais ça peut être un désordre très joyeux, de renverser les tables, de renverser ce qu'il y a dessus, pour que cette chose-là arrive, en fait. L'idée, c'est qu'en fait, au début, on est dans un récit, et qu'au fur et à mesure de cette mise en scène, on arrive dans l'espace du présent, c'est-à-dire qu'on est les gens qui le vivent ou qui le revivent, mais... Et l'idée, c'est que le public est inclus en fait là-dedans. Il est aussi, il fait partie de la fête. C'est les villageois de la fête. Mmh. D'ailleurs, Giono est très fort avec ça puisqu'il dit toujours tu, alors qu'il y a pas de, il y a personne en face, mais donc il inclut quelqu'un. Donc nous, pour prendre les spectateurs à partie, c'était facile. Mmh. Et donc Samy aussi joue beaucoup avec sa guitare en lien avec les gens. On essaye d'un peu de les Et il y a en fait cette danse. Nous, on a souvent un retour à la fin qui est de, les gens nous disent, on avait trop envie de danser avec vous. Mmh. Et bah oui, parce que la transe, c'est communicatif. Hein, c'est ce rythme binaire, boum, tchac, que tu avais amené un jour, Samy, avec ta boîte à cigares. Là. Et ça, moi, ça m'avait immédiatement mis dedans. C'était d'ailleurs un accident, c'était pas prévu au départ dans la mise en scène.
Mais c'est un peu le point de départ de notre travail, en fait. Baptiste voulait justement partir de la transe, puisque c'est quand même ce qui est c'est le point culminant, en fait, de la nouvelle. Et on est parti de là. Et effectivement, c'est là que m'est venue l'idée. J'avais fabriqué en fait ce qu'on appelle des stomp box, voilà, pour créer comme une grosse caisse de batterie, mais dans des boîtes à cigares. Et j'avais ramené ça. Et effectivement, à partir en fait d'un pattern très simple qui était juste à la noire de taper du pied, Baptiste s'est mis à danser. Et du coup, ça inclut la danse que tu as travaillé plus tard avec une chorégraphe. Mmh. Mais c'était un peu le point de départ en fait, effectivement. Mais pour revenir aussi à ce que tu disais, cette magie de l'adaptation en fait dans chaque lieu, c'est que chaque endroit fait écho justement à la nouvelle Et il se passe des choses, comme tu le disais, avec le vent, avec des fois des... On entend des animaux au loin, etc. Donc il y a une espèce de magie aussi là-dedans de ne pas avoir quelque chose de figé, mais qui puisse s'adapter justement. On a aussi joué dans une église, par exemple.
Ouais.
Mais je dirais que parfois les images les plus fortes sont dans des lieux justement où, dans lesquels on ne croirait pas finalement de façon spontanée jouer. Et je me rappelle de cette église, notamment quand on a fait justement la tournée entre Manosque et Kliuskla. Mm. On s'est retrouvé dans une église parce que, en fonction de la météo, on doit aussi s'adapter, quoi.
Et puis des fois, tu te souviens, il y a eu une météo catastrophique. Enfin, il y avait un vent très froid et très fort. Et on a convié les spectateurs à rentrer dans une salle où ils rentraient quasiment pas, en fait. Mm. Et donc nous, il fallait nous ajouter là-dedans, donc il y avait encore moins d'espace. On a joué autour d'une table, c'était un peu mouchoir de poche.
Ouais, ça crée une sorte d'électricité dans le public qui était vraiment palpable.
Ouais.
Si je regarde un petit peu votre tournée, non pas passée, mais celle qui arrive là dès la semaine prochaine et que je nomme un petit peu différents lieux, vous jouez effectivement donc de village en village, mais dans des lieux parfois très atypiques. Alors si j'en nomme quelques-uns, une médiathèque à Saint-Jean-en-Royan le 22 mai, mais par chez nous, à Bordeaux, vous jouez dans un temple le 23 mai à 20h. À Alex, vous allez jouer à la gare des Ramières.
C'est le 24 mai. La date s'est décalée. Voilà.
D'accord.
Ouais.
À Alex, vous jouerez à la gare des Ramières à 17h.
Le 24 aussi.
Le 24. vous allez jouer à Gigor et Lozeron le 25 à la Rivière Art à 19h. Ensuite, vous allez jouer dans le Champ Blanc à Saint-Andéol-en-Quin.
Oui.
Dans une base nature à Vassieu-en-Vercors. Bon, j'accélère un petit peu, mais dans des cabanes.
Voilà,
des cabanes du Vercors, dans un couvent, le couvent des Carmes. Dans d'autres cabanes encore dans le Vercors, jusqu'à finir à la ferme du Mai à Vouray le 7 juin. Mmh. Donc ces cabanes, cette marche entre les cabanes, ça peut-être vous pouvez préciser votre itinérance.
Oui, alors c'est un projet qui s'est constitué avec le parc du Vercors, qui avait vu le spectacle il y a 2 ans, je crois, à l'occasion de Festiwild dans le Diois. Et ils trouvaient que c'était intéressant et finalement, nous aussi, évidemment, de jouer ça auprès des cabanes. Eux, ils ont un projet de réhabilitation des cabanes. Enfin, elles sont plus ou moins dans un état de réfaction, voilà. Et elles ont des utilisations différentes, mais elles sont vraiment au cœur du sauvage sur tout le massif. Et ils nous ont proposé de jouer auprès de 5 cabanes. Donc, elles sont dans des cadres différents. Des fois, c'est dans des clairières, des fois, c'est la forêt. Voilà, auprès de la cabane, plus ou moins loin. Et on va rejoindre effectivement ces cabanes à pied. Donc, il y a toute cette itinérance qui, nous, va nous nourrir très fort parce qu'on passe au milieu d'endroits assez exceptionnels, vraiment très, très beaux, assez sauvages finalement, assez peu fréquentés. Le public lui-même va venir se rapprocher de ces cabanes qui ne sont pas a priori faites pour accueillir beaucoup de gens, mais plutôt des petits groupes de personnes, ou voire une personne, qui sont des endroits un peu isolés. Donc là, il va y avoir un endroit de rassemblement autour de ça. Et oui, ces cabanes, ça nous parle, parce que c'est à la fois le lieu de l'itinérance, la cabane, on vient pour s'y abriter une nuit, puis on repart le lendemain. Et puis c'est un symbole aussi, c'est un endroit qui est au milieu du sauvage, et donc il y a l'humain qui est là, au milieu de la nature. Et donc, quelque part, ça fait écho aussi à Prélude de Pan. Voilà.
Oui, toute une expérience. Samy ?
Ouais, j'en profite pour préciser aussi d'ailleurs qu'on invite le public à marcher avec nous. Voilà, si vous voulez faire une étape avec nous, je crois qu'il y a une adresse mail qui a été créée spécifiquement.
C'est grandrandogiono@gmail.com.
Est-ce qu'on a le temps d'écouter un dernier extrait avant de conclure l'émission ?
Tu le sens, Samy ?
Vous voulez
bien
sûr.
Allez, vas-y. Alors là, on fait le feu d'artifice. Un large éclair volta sur nos têtes comme un oiseau. Alors la porte des écuries éclata. Il se rua sur nous les mulets et les chevaux, et les poulains, et les ânes entiers qui étaient tous en chaleur. Alors les poulaillers s'ouvrirent comme les noix, et on recevait dans les figures des poules et des coqs fous, qui se cramponnaient de leurs ongles dans la peau de nos joues, des pigeons qui tombaient sur nous comme de la neige, et l'air bouillé de toute cette oisellerie. Du fond de la vallée,
toutes les hirondelles qui s'étaient amassées durant les jours d'avant en vue du départ, du fond de la vallée. Toutes les hirondelles jaillirent des saules et des buissons et des prés chauds. C'était dans le ciel comme un grand fleuve du ciel. Il tourna un moment, puis il se vida sur nous. Et ce fut une pluie d'hirondelles, et on ruisselait d'hirondelles. On en était plein, on en était lourd, on en était inondé et écrasé comme sous une chute d'eau. Alors, toute la verdure de la montagne se mit aussi à bouillir comme une soupe. Tout ce que la forêt avait de bête se mit à suer d'entre les arbres et les herbes. Ça dévalait sur les pentes comme un éboulement, comme un écroulement de boue. C'était serré, ventre à ventre, dos à dos, le poil contre le poil contre l'écaille. Il y avait les blaireaux, les renards, les sangliers, un vieux loup, les écureuils, les rats d'arbres, les couleuvres qui semblaient des branches vivantes, les poignées de vipères et de vipros. Il y avait les aigles, et les gélines, et les perdrix, et les grives vétéranes. Il y avait une haze, je me souviens, qui bondissait, toute seule, au bord, dans l'herbe. Et chaque fois qu'elle sautait, on voyait un petit levreau, gros comme le poing, pendu à une de ses tétines et qui ne lâchait pas le morceau. Il y avait un vieux cerf, noble et dur d'œil comme un monsieur, et qui était couvert de lichen parce qu'il habitait les hauts parages du Durbonas. Il y avait, qui voltait au-dessus de cette masse de bêtes, les chauves-souris des abîmes. Et elles volaient par bond, en déployant leurs grandes peaux velues. Et elles avaient des jambes à déclic, comme les sauterelles. Elles retombaient, et on les entendait crier avec des voix de jeunes femmes. Chargés de nuit et qui nageaient de sous l'orage. En entrant dans le village, le loup se coucha contre la porte du café du centre. Avec son épaisse langue rouge, il léchait ses pattes blessées par les épines. Je les vis arriver.
Il faudrait voir dans le studio vos corps qui se mettent à bouger, à danser, à habiter le texte et la musique. Il faudrait voir nos poils qui se hérissent peut-être sur nos bras dans le studio. Et toute cette dimension-là, elle peut encore prendre de l'ampleur en vous voyant en spectacle et pendant un long temps. Donc on a hâte vraiment de vous retrouver. Il va falloir conclure cette émission et c'est pour mieux vous retrouver en spectacle. Est-ce que vous voulez juste ajouter quelque chose avant que je redonne les références
Que j'avais envie de dire que nous aussi, on a hâte de se retrouver là-dedans. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Moi, c'est très difficile d'être dans un studio, d'être assis et de sentir que son corps a envie de lâcher, quoi. En fait, c'est un exercice un peu, un peu paradoxal, parce que c'est un exercice de corps à ce moment-là. Et c'est là qu'on voit que, du coup, la parole de Giono est très organique et que c'était pas du tout un auteur de la pensée ou quelque chose d'un peu à plat, comme ça. C'est vraiment... déjà, c'était un mélomane, donc c'était quelqu'un qui écrivait avec la musique. Et on sait que la musique, c'est quelque chose de très organique, ça se vit, ça se respire... Et ce texte, il se respire. Et c'est aussi ça qui... Enfin, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais qui m'a vraiment donné envie de bosser avec Samy. C'est que dans l'écriture de Giono, il y avait une façon d'écrire un rythme que Samy a très bien compris très vite. Et donc, on s'est vraiment inscrit dans ce rythme-là ensemble. Mais il y a des moments très hachés. Là, on l'a vu dans le texte que je viens de dire. Il y avait une haze qui bondissait au bord, toute seule, dans l'herbe. Et c'est comme si on voyait la haze qui se déplacent par petits bonds, et puis des fois des grands déliés, des phrases beaucoup plus déliées comme le cerf, où là on a quelque chose de vachement plus noble, enfin voilà, on a un truc qui est pendant 10 secondes, une phrase qui n'a pas de ponctuation et qui va au bout, donc on sait que c'est un souffle, On sait aussi que c'est dans la fatigue, voilà. Donc tout ça, ça joue beaucoup, quoi, voilà. Mm. Donc là, c'est frustrant, mais on va réexpérimenter tout ça bientôt.
Oui, et puis la fatigue, vous retrouver.
Voilà, et la fatigue fait partie du projet, donc l'itinérance va en rajouter une couche.
Oui, l'état de transe est encore décuplé par la fatigue, je dirais. Mais non, mais je dirais que c'est grisant en fait d'être à l'aune justement de cette dizaine de dates dans des lieux fabuleux, puis d'aller à la rencontre des gens, je trouve. Puis chaque matin de reprendre la route. Enfin, il y a une citation de Giuliano d'ailleurs qui je vais mal la citer, je pense, mais il dit quelque chose comme il n'y a rien de plus beau que ces matins où on se met en chemin.
Ouais, c'est ça. Mmh. Dans les grands chemins, justement. Il n'y a rien de plus beau qu'un matin où on se met en chemin. Ouais.
Eh bien, on finira peut-être
oui, et
sur
il fallait
cette
juste
citation.
Que je rajoute quelque chose. On a invité les gens à marcher avec nous. Il y a peut-être aussi un intérêt pour eux, c'est que, et pour nous, avec Samy, c'est qu'on a invité des naturalistes à venir nous parler de ce massif tout au long de cette pérégrination. Il y a une experte des forêts à Vassy en Vercors, il y a une botaniste vers la Chapelle en Vercors, il y a un naturaliste, un animateur nature qui va nous parler du cerf, plutôt vers la forêt de Lente, avant la cabane de Crobache. Il y a quelqu'un qui va nous parler des vautours entre la vallée de la Gervanne et la vallée de Quin. Et tout ça, c'est aussi pour nous et puis pour les gens, s'ils ont envie de participer à cette aventure, une façon d'apprendre de ce paysage et d'apprendre des vivants. Voilà. Et à nouveau, de parler de comment nous, on vit avec eux, parce qu'eux, ils sont là, hein, tout le temps, ces animaux, ces êtres-là. Et nous, finalement, là, pendant 12 jours, on va faire que traverser ces paysages. Nous, on est vraiment des hôtes. Parmi ces créatures, quoi.
Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Donc la compagnie Seine Nationale 7.
Oui, c'est seine-nationale-7.com.
Sur Internet, il y aura toutes les dates de la tournée, les lieux de rendez-vous.
Oui, tout est précisé sur le site. Il y aura évidemment les réseaux sociaux aussi pour nous mettre un peu à jour de l'aventure au fur et à mesure. Et puis à la fin, on voudrait, je pense que ça va se faire, on voudrait déposer une sorte de carnet de voyage à pied. Enfin voilà, une collecte un peu de tout ce qu'on a traversé, que ce soit des textes, des images, des photos. Il y aura aussi de la vidéo. Qui retrace un peu toute cette aventure, voilà. Et donc les gens qui viennent marcher avec nous sont aussi invités à pouvoir déposer quelque chose dans ce petit carnet.
On finira sur cette invitation. Samy de Coster, Baptiste Rela, merci beaucoup.
Merci Claire.
Merci.
Sarah, merci à la technique. Et on finit par quelques notes. Merci à vous, chers auditeurs.
Dans la brume du petit matin, se dessine un chemin, celui qui jusqu'au cœur des maisons, aux hommes sans raison, enseigne la leçon. Sur le dos, volerais-tu loin d'ici? L'oiseau rentre toujours au pays, le bec vers l'horizon, chanter cette chanson. La plume s'envole par-delà le ciel et son âme se. Bientôt l'oiseau reviendra de lui-même répandre la nouvelle folie. Mmh.
La collective, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur Radio Saint-Ferréol, le mardi de 12h à 13h.